Vous écoutez RTL.
Merci Céline Landreau. Céline, c'est à 16h que l'on vous retrouve, vous et l'information. Ils auraient bien aimé venir tous les deux à votre rencontre, mais seul Nicolas en a encore la force. Damien, lui, est à l'hôpital. Damien et Nicolas sont frères jumeaux et luttent depuis toujours contre la mucoviscidose. À 35 ans, ils réclament le droit de mourir en paix et dans la dignité. Et si l'un des deux se retrouve dans une situation extrême, l'autre l'aidera, c'est promis. L'émission sur RTL commence dans un instant. A tout de suite avec vous, bien sûr.
RTL, Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre. Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être avec nous pour une heure d'échange comme chaque jour sur l'antenne d'RTL. Je vous remercie également pour votre fidélité et cette confiance que depuis 4 saisons vous voulez bien nous accorder, car sans elle, nous ne pourrions nous engager dans de tels chemins de partage et de pensée sur RTL. Et puis le rendez-vous que nous vous proposons aujourd'hui fait partie de ceux précieux dont on se souvient, que l'on se rappelle, parce que oui, parfois ça fait mal, mais ça a aussi le mérite de faire réfléchir. Nicolas est avec nous dans le studio d'RTL. Et puis bientôt, nous allons parler avec son frère jumeau, Damien, qui aujourd'hui n'a pas pu venir dans les studios et se joindre à nous. Tous deux ont 35 ans et autant d'un combat quotidien et sans répit contre une maladie, la mucoviscidose. Et leur histoire, qui nous va droit dans le cœur, ils nous la racontent dans un ouvrage paru chez Ixo Document intitulé « Frères jusqu'au dernier souffle ». Car s'ils ont tout en commun, ils sont jumeaux, même la maladie, ils partageront aussi peut-être ce qu'on appelle l'ultime bouffée d'air. Ils se sont promis de céder à partir si l'un des deux souffre trop et se retrouve dans une situation extrême. Aujourd'hui, jusqu'à 16h sur RTL, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio Nicolas Delmer. Nicolas, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Mais c'est un plaisir de faire votre connaissance, Nicolas, et de pouvoir passer cette heure avec vous. Et je vous remercie aussi au nom de tous les auditeurs d'RTL qui vont découvrir peut-être votre parcours et puis aussi le message que vous voulez faire passer à travers cet ouvrage que vous avez co-écrit avec Damien.
Oui.
Alors Damien ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, il n'avait peut-être pas la force de venir jusqu'à Paris, il est à l'hôpital, mais Damien est en ligne. Damien, bonjour, merci, bienvenue sur RTL.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Je dirais que c'est une joie de vous rencontrer tous les deux, Damien. Et puis, quand j'ai lu votre ouvrage, j'ai été partagée, traversée par énormément de sentiments très variés. Damien, pourquoi est-ce que vous avez tenu à écrire ce livre ?
J'ai tenu à écrire ce livre parce que c'est une immense souffrance qui m'a vraiment figé toute ma vie et je tenais comme un cri du cœur, un cri du ventre, pouvoir partager, faire connaître au public les affres de cette terrible maladie qu'est la mucoviscidose, les souffrances qu'on rencontre au quotidien mais aussi les moments de joie qu'elle nous accorde encore. À travers ce parcours est né certains de nos engagements que l'on fait découvrir aux lecteurs et qui sont une force de vie, un hymne à la vie.
Quand on lit votre ouvrage, on est pris par la joie parce qu'on sent que vous aimez la vie. Parfois on sourit de certaines situations, parfois on s'indigne avec vous et j'ai le sentiment qu'on comprend mieux aussi beaucoup de choses. À commencer par la mucoviscidose. Qu'est-ce que la mucoviscidose pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Alors, la mucoviscidose est une maladie génétique du chromosome 7 qui présente des mutations du gène CFTR, provoque un dysfonctionnement, une altération du transport d'ions qui va provoquer un épaississement du mucus pulmonaire dans lequel les bactéries vont se nicher et ainsi créer des infections à répétition, ayant pour conséquence une destruction évolutive, irréversible et dramatique des poumons.
Imaginez un homme des plaines soudain propulsé sur les pentes de l'Everest, écrivez-vous. Le mal aigu des montagnes a un air familier. Ballonnement, violentes douleurs abdominales, sinusite, fourmillement, arthralgique, picotement, toux, difficultés respiratoires. Plus elles sont prononcées, plus le corps s'épuise. Vers 3000 mètres, les membres s'alourdissent, les gestes deviennent lents et difficiles, la tête bourdonne. Passé 5500 mètres sans oxygène, il y a un risque de coma. l'asthme. Ma capacité respiratoire est de 39%. Voilà une réalité quantifiable, mais pas vraiment parlante. 39, moins de la moitié de ce qui est nécessaire à une respiration normale. Vous manquez d'air, en fait, Nicolas, c'est ça ?
Oui, je manque d'air. J'ai la capacité respiratoire de moins d'un poumon. Damien, c'est encore moins. Il est en dessous de 30%. Vous avez énuméré quelques symptômes, mais la liste est encore plus longue. Il n'y a presque pas la place pour écrire tout ce qu'on vit au niveau de la souffrance, au niveau des symptômes. Et ça l'est également pour les thérapies au quotidien qui sont très lourdes. Ça passe par des kinés respiratoires épuisantes. On avale à peu près entre une vingtaine à une quarantaine de médicaments par jour avec des aérosols thérapie pour inhaler des antibiotiques, des bronchodilatateurs, des anti-inflammatoires, etc. Plus les thérapies avec le kiné-ostéopathe qui vient à la maison pour masser nos cervicales, puisque dans la mucoviscidose, certains patients ont des problèmes aux cervicales comme moi. J'ai des douleurs constamment du matin au soir depuis 3 ans. Il y a aussi les contrôles glycémiques, les piqûres de glycémie pour réguler le taux d'insuline pour Damien qui est diabétique, mais moi aussi. Donc c'est une liste de gestes médicaux à faire au quotidien qui est énorme et qui, avec l'évolution de la maladie, augmente sans arrêt et on n'en voit plus le bout. C'est une maladie chronophage. Vous êtes complètement pris par les soins, par les symptômes, par l'épuisement, par la toux la nuit. Ça ne s'arrête jamais. On a très peu de moments de recul, très peu de moments de répit, qui est d'autant plus difficile à comprendre, à appréhender, percevoir par les personnes en bonne santé, puisque la mucoviscidose est une maladie qui n'est pas inscrite, marquée physiquement sur la personne. On est sans cesse obligé de se justifier et la maladie est encore peu connue. C'est pour ça que nous avons voulu écrire ce livre dans lequel nous parlons avec nos tripes. Nous parlons de ce quotidien, justement, et nous évoquons du droit à mourir dans la dignité.
Alors, on va justement passer une heure ensemble. On va pouvoir aborder tous ces différents sujets. Mais moi, il y a un passage qui m'a tiré les larmes aux yeux parmi tant d'autres. Et je vais vous le lire dans un instant sur l'antenne d'RTL. Damien, vous êtes toujours avec nous.
Je suis là.
Voilà, vous êtes à l'hôpital, mais vous êtes avec nous. On se retrouve dans un instant. On va poursuivre donc ce moment exceptionnel sur l'antenne d'RTL avec vous deux et avec nos auditeurs. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, c'est d'abord une histoire d'amour que vous proposent Damien et Nicolas Delmer, frères jusqu'au dernier souffle. C'est leur ouvrage chez IXO Documents. C'est une histoire d'amour, c'est aussi l'histoire d'une maladie, celle de la mucoviscidose. Et puis, c'est l'histoire de la gémellité. Nicolas est avec nous sur RTL, dans ce studio de la rue Bayard. Damien, lui, n'a pas pu venir jusqu'à nous, puisque aujourd'hui, il n'avait pas la force. Donc, il est à l'hôpital, mais il est de toute façon en ligne avec nous. Damien ?
Oui, je suis là.
Il y a un passage dans votre ouvrage qui m'a beaucoup touchée. C'est quand Nicolas écrit sur vous. Il y a Damien. Lui, c'est le cadeau que la vie m'a donné. Damien est l'amour de ma vie. C'est un sentiment complexe, sans sexe. Un amour de corps et d'âme qui transcende l'être. Fusion indescriptible qui n'enferme jamais et réjouit de la liberté de l'autre. Lien impalpable, même à distance. On évolue au même pas, le souffle raccourci. J'ai connu mon frère avant les autres. Je l'ai touché avant de savoir distinguer ma peau de la sienne. Nous avons baigné dans la même eau amniotique, entendu les mêmes sons, reçu les mêmes nutriments. Avant de naître, nous vivions déjà en étroite connexion. Deux êtres au fond d'un ventre et une seule origine. Comment définir la force du lien tissé au commencement ?
C'est un passage extraordinaire que je partage complètement et je le ressens comme au fond de moi. Et on a du mal à imaginer la vie sans l'autre. Moi, quand je l'ai entendu tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux parce que je ne l'ai pas vu depuis 2 jours et il me manque déjà. De l'entendre parler, il s'exprime tellement bien et c'est touchant. Et tous les compliments qu'il a bon de faire dans le livre, c'est la même chose pour moi en retour.
Cet amour, on le ressent et puis on ressent ce combat solidaire. Depuis quand savez-vous que vous êtes atteint de la mucoviscidose dont vous venez de nous décrire, Nicolas, les symptômes épouvantables il y a un instant ?
On a été diagnostiqué dès la naissance, donc on a grandi avec. On a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. De par nos allers-retours quotidiens, presque j'ai envie de dire, à l'hôpital Necker à Paris, avec le professeur Lenoir, on a baigné très tôt dans cette ambiance.
Mais vous n'avez pas de souvenir qu'on voulait annoncer officiellement ? C'est-à-dire que vous écrivez que vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose ?
On ne nous l'a jamais annoncé, j'en ai pas le souvenir, mais c'est quelque chose qui vient tout seul, à l'évidence, l'enfant est intelligent. Il comprend de lui-même, Il n'y a pas besoin de lui expliquer. Quand on l'emmène sans arrêt dans un hôpital et quand il voit que ses copains n'y vont pas, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est un peu différent des autres, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre santé. D'autant plus que j'étais avec Damien, on est tous les deux. Il était un peu plus dans une situation de gravité dans l'enfance parce qu'il a été opéré de l'appareil digestif. Et ensuite, il était un peu en meilleure santé que moi, mais on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Et puis notre mère était, suite à la maladie, un peu mère poule.
Ouais.
Couvre-toi, mets ton bonnet, reviens vite, fais très attention, sans arrêt. On ressent par tous ces indices, ces éléments, qu'il y a quelque chose.
Damien, vous avez compris qu'il allait falloir vivre votre gémellité avec aussi cette maladie ?
Oui, c'était quelque chose d'inéluctable et ça a renforcé notre amour l'un l'autre. Je pense que si l'autre n'était pas là, on n'aurait pas atteint tout ce parcours parce que on s'est soutenu la main pour tout, mutuellement, à travers des épreuves très dures, très difficiles. Et j'ai vécu comme des choses insurmontables qui sont en partie décrites dans le livre. Et malheureusement, on n'a pas pu mettre toutes les scènes, des épisodes, des événements, des épreuves beaucoup, beaucoup plus dur dans les livres parce que il fallait que le livre il soit, aéré par des épisodes plus légers pour pas que le lecteur il soit vraiment asphyxié par toutes ces souffrances. Je peux vous dire que la dose de souffrance vécue dans mon existence, c'est une partie infime dont on fait part dans le livre. C'était tellement extrême que j'aurais pas tenu sans Nicolas. Il a toujours été là pour me soutenir, me tenir la main et trouver les mots justes pour me donner la force de continuer. Il est d'une psychologie, d'une humanité, d'un humanisme, d'un amour sans pareil. Nicolas, c'est mon meilleur psychologue.
Mais c'est réciproque.
Alors, je vais garder le meilleur psychologue avec moi, hein, Damien, vous m'en voulez pas. Il va bientôt vous rejoindre, ne vous inquiétez pas. Et on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Damien, Nicolas, à tout de suite avec les auditeurs, bien sûr.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je vous conseille un ouvrage. Je vous le conseille avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur. Damien et Nicolas Delmer, frères jusqu'au dernier souffle, chez XO Documents. C'est un ouvrage qui raconte l'histoire de ces auteurs et de leur combat pour la vie et le droit de mourir dignement. On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission avec Damien et Nicolas. Nicolas est dans notre studio. Damien est en ligne avec nous de l'hôpital. Cet ouvrage, je le conseille à nos auditeurs parce que je sais à quel point il nous sensibilise aussi à nos différences. Votre maladie, la mucoviscidose, est une maladie invisible, c'est-à-dire qu'on vous regarde, on ne se rend pas forcément compte que vous êtes malade. Et d'ailleurs, vous, dans votre façon de gérer la maladie, vous avez fait du sport, vous avez eu des activités physiques que je n'ai pas eu moi-même alors que j'ai des poumons qui fonctionnent mieux que les vôtres. Donc, vous êtes allé faire front quand même et vous êtes allé chercher de l'air là où il n'y en avait pas forcément.
Tout à fait, on s'est battu jusqu'au bout et on continue de le faire, on continuera de le faire. Pour ma part, le sport fut et est encore un exutoire. Ça a été un moyen d'évacuer cette souffrance extrême au quotidien, d'évacuer ma colère. Je suis passé par plein de sortes de sports. Ça a été les sports de glisse, les arts martiaux, les sports de combat, le footing.
Le saut en parachute.
Exactement. J'étais très porté par les sports extrêmes. Nous sommes dans un combat, une lutte permanente. On n'a jamais voulu courber les chines, même si on a eu parfois des moments de désespoir, comme tout le monde. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre intitulé « Se battre jusqu'au bout », dans lequel nous souhaitons que toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose se battent jusqu'au bout, jusqu'où elles peuvent, quitte à aller jusqu'à la greffe. Nous faisons la promotion de la greffe dans ce chapitre. Nous y sommes totalement favorables. Et j'ai envie de parler de Damien. Il est beaucoup plus atteint que moi. Il a vécu des choses encore plus dures. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai jamais vu quelqu'un se battre autant. Parfois, je me demande mais comment il fait pour en arriver jusque-là. Comment il fait pour ne pas se foutre en l'air. Il est là, toujours, toujours là, debout, amaigri, affaibli physiquement, mais d'une profonde richesse intérieure. Cette maladie, justement, nous a apporté des choses positives parce que les patients atteints de maladies graves sont souvent en colère. Nous l'avons été pendant de nombreuses années et parfois j'ai encore ces accès de colère. Cela dit, j'ai envie d'apporter un message que je décris dans le livre, qu'il faut aussi voir sa maladie de manière positive. La maladie est un enseignement. Elle nous a apporté des choses positives. Elle m'a permis d'ouvrir mon cœur. Elle m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Elle m'a permis d'augmenter chez moi ma sensibilité, mon humanisme, mon introspection, de mieux connaître ma conscience, mes limites, mon corps. La maladie est pour moi comme un allié, un outil d'initiation, comme si j'étais venu sur Terre pour récupérer, apprendre quelque chose. Et en cela, je remercie ma maladie, bien que encore aujourd'hui, j'ai aussi des accès de rage, de colère. Je suis partagé maintenant entre ces deux sentiments. Et par ce travail que j'essaye de faire sur moi, j'essaye de voir ma maladie sous un autre angle, beaucoup plus positif. Et j'invite les patients à faire de même, bien que ça soit très dur. Moi, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit « mais tu rêves, je ne peux pas voir ma maladie comme ça, je suis trop en colère ». Plus j'avance avec l'âge, plus j'avance en maturité grâce à cette maladie, plus je vois les choses différemment et de manière plus globale.
Damien, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous aussi ?
Un peu plus mitigé, partagé, parce que je pense que pour en arriver à ce stade de réflexion et partager ces sentiments comme Nicolas les exprime, il faut aussi qu'il y ait des moments de pause, des moments de répit, oui, des moments positifs. Et moi, j'ai eu des traversées dans ma vie où il n'y en a vraiment eu aucune. C'est toujours la souffrance 24 heures sur 24. On a le corps tellement torturé par les souffrances. Moi, actuellement, les antalgiques me soulagent quasiment plus. J'ai des douleurs de tous ordres en permanence, musculaire, articulaire, abdominale, cardiaque, dentaire, névralgique. Et j'en passe. Pour pouvoir s'accorder un état d'esprit positif, il faut pouvoir souffler que la vie nous accorde des moments de pause. Et chez moi, ils sont devenus très rares. Je comprends totalement la position de Nicolas. Et même dans les états psychologiques extrêmes que je vis, moi, j'essaye aussi de cultiver cette ouverture, de m'ouvrir des portes de lumière. Il faut que je cesse de voir la maladie comme un enfer, mais aussi quelque chose qui m'a apporté une grande sensibilité, de l'empathie, à comprendre la souffrance des autres. Oui, je pense que avant je comprenais moins et j'étais un peu moins réceptif aux souffrances que les autres pouvaient endurer. Alors que maintenant, quand j'entends quelqu'un qui me parle de sa pathologie ou ses souffrances psychologiques, je les ressens à l'intérieur de moi-même et ça a vraiment accentué une certaine compassion et ma capacité à ressentir la douleur et la souffrance physique des autres. Ça m'a ouvert une réflexion sur ma conscience, une réflexion spirituelle.
Le fait de nous parler, Damien, de passer du temps avec nous au téléphone, là, pour vous, est un effort physique pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent bien ?
Oui, c'est vrai, c'est pas toujours évident. Ça demande une certaine mobilisation d'énergie parce que, comme on disait au début de l'émission, moi j'ai entre 22 et 30% de capacité respiratoire. Et parler, pour moi, c'est épuisant. Et pourtant, je ne veux pas me priver de l'opportunité de pouvoir m'exprimer au public pour pouvoir leur faire part de certains messages que j'estime très importants à partager avec eux.
Eh bien, merci en tout cas de bien vouloir nous accorder ce temps, Damien. Ce que je vous propose, puisque vous parlez des messages que vous voulez faire passer, c'est qu'on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL et vous allez pouvoir en profiter. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On est fait pour s'entendre, on est fait pour s'étreindre aussi autour d'histoires parfois qui nous touchent plus que d'autres. Damien et Nicolas Delmer sont les auteurs d'un ouvrage « Frères jusqu'au dernier souffle » chez Ixo Documents. Damien n'est pas avec nous, il est en ligne de l'hôpital. Nicolas, son frère jumeau, en revanche, est dans les studios de la rue Bayard. Tout va bien Damien, vous êtes toujours avec nous. On poursuit notre conversation. Nous allons avoir également le plaisir de recevoir Jean-Luc Romero pour parler d'une association que vous connaissez très bien, qui est l'ADMD, c'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour Jean-Luc Romero, merci de rejoindre, on est fait pour s'entendre.
Oui, bonjour Flavie, puis bonjour à Damien et Nicolas.
Bonjour Jean-Luc.
Salut Jean-Luc.
Alors, quand j'ai demandé quelles sont vos relations avec Jean-Luc Romero, Nicolas m'a dit, on se connaît maintenant, on est presque amis. Est-ce que des combats tels que les vôtres unissent les gens au-delà même de la simple cordialité ?
Oui, bien sûr que les combats, et puis je partage aussi moi avec Damien et avec Nicolas, je sais ce que c'est que de vivre avec une maladie grave,
oui.
Et donc je crois que ça nous a rapprochés il y a très longtemps, et c'est pour ça que cette amitié, elle vient de là, puis elle vient bien sûr du combat qu'on a tous les trois pour avoir une fin de vie digne.
On va revenir justement sur les messages que veulent faire passer Damien et Nicolas dans leur ouvrage, et puis vous également en tant que président de la DMD. Juste quelques lignes encore du livre de Damien et Nicolas. Nicolas, vous aviez 9 ans. Ce jour-là, devant la chambre du gamin qui agonise, quelque chose se fige à l'intérieur de moi, se solidifie, caille comme un grumeau, la peur peut-être qui ne partira plus jamais. C'est la peur de quoi, Nicolas ?
La peur de mourir très tôt dans l'enfance, de savoir qu'on n'est pas éternel, que tout peut s'arrêter. Et c'est venu brutalement devant cette scène à l'hôpital, bien que j'étais conscient qu'on pouvait mourir. Mais là, ça vous remonte à la conscience à coups de fouet, à coups de violence inouïe. Et c'est à partir de là qu'on prend conscience de la gravité de la maladie qui est dans nos cellules, qui nous possède. C'est extrêmement dur quand on est enfant de voir cela. Et ensuite, j'ai vu aussi d'autres personnes atteintes de la mucoviscidose partir quand j'étais en début d'adolescence. Et plus récemment, il y a quelques années, je raconte dans le livre le départ d'Alexandra, une amie atteinte de la mucoviscidose.
Damien, cette peur, on doit l'apprivoiser, on doit vivre avec comme on doit vivre avec la maladie ?
Ça dépend de chacun. Et ouais. C'est une peur tenace et constante de ne pas pouvoir maîtriser sa fin de vie.
Ouais.
Moi, je souhaite avant tout vivre et guérir. Je souhaite être greffée des poumons. Je me bats pour ça. Actuellement, on me refuse la greffe parce que je suis trop dénutrie. Je pèse moins de 39 kilos et on me refuse cette possibilité de la greffe pulmonaire parce que la dénutrition, c'est un facteur d'échec de la transplantation. Et je me bats pour reprendre du poids grâce à, notamment à une sonde nasogastrique. Le problème, c'est que le peu de poids que j'arrive à gagner, je le repère à cause d'une infection, à cause de troubles cardiaques, de pépins de santé qui arrivent en série. L'avenir, pour moi, est complètement imprévisible. Je souhaite pouvoir avoir le choix entre, bien sûr, la greffe pulmonaire ou si je me retrouve dans des conditions de déchéance, d'aggravation et que je ne me sens plus à la hauteur de pouvoir continuer, bah, je souhaite pouvoir décider de moi-même d'arrêter parce que je pense que chacun juge pour lui-même le seuil de souffrance qu'il ne souhaite pas franchir. C'est la notion subjective et individuelle de dignité propre à chacun qui décide de ce seuil à ne pas dépasser. Chacun décide jusqu'où il peut aller par rapport à ses pertes d'autonomie, ces déchéances irréversibles. Actuellement, on n'a pas la possibilité, si la douleur devient inapaisable, comme c'est le cas pour moi, de pouvoir abréger des souffrances qui sont pour soi-même insupportables. Et cette dernière liberté de l'aide active à mourir en France aujourd'hui, elle est interdite, contrairement à d'autres pays.
Jean-Luc Romero, la dignité, c'est un mot qui revient énormément dans l'ouvrage de Damien et Nicolas, et c'est un mot qui revient énormément dans vos combats. Cette dignité, elle passe, Jean-Luc Romero, par le fait d'être maître de sa destinée, quelle qu'elle soit ?
Oui, enfin, la dignité dans la vie d'abord. Et Nicolas et Damien sont des gens dignes, et je voudrais dire aussi, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils nous parlent de leur vie qui est extrêmement difficile. Et en même temps, quand vous allez les voir chez eux, dans leur maison lumineuse à Amélie-les-Bains, qu'est-ce que vous voyez ? C'est plein d'amour.
Oui.
Un amour incroyable qui fait un bien fou. Moi, chaque fois que je les vois, je reviens boosté, alors qu'ils ne sont pas toujours en grande forme. Leur maison, c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est de l'émotion et c'est aussi de la joie. Et ça aussi, il faut le dire, parce que leur message, c'est quand même un message optimiste. C'est des gens qui se battent. Qui se battent pour vivre et qui se battent bien sûr pour vivre dans la dignité.
Jean-Luc Romero, ça fait une demi-heure effectivement qu'on est avec Nicolas et Damien. On en a parlé et je leur ai exprimé à plusieurs reprises. C'est fou comme cet ouvrage et comme d'ailleurs leur relation à eux, comme leur discours est profondément lumineux et c'est fou comme on peut le recevoir et en être soi-même grandi. La dignité aussi, ça passe par ce quotidien et cette relation aux autres qu'ils ont su tisser. Jean-Luc Romero, vous voulez bien rester avec nous ? On va se retrouver dans un instant. Et j'aimerais que vous puissiez faire connaître peut-être plus à nos auditeurs la loi et puis nous expliquer aussi dans quelle mesure elle peut évoluer. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Depuis 15h, vous écoutez l'histoire et les combats de Damien et de Nicolas Delmer sur RTL. Est en ligne également avec nous Jean-Luc Romero, qui est donc le président de l'association ADMD. On va revenir avec Jean-Luc Romero dans un instant. Damien n'est plus en ligne avec nous parce que Damien, et vous le savez, est en train de suivre certains soins à l'hôpital. Donc on va marquer une courte pause avec Damien. On va poursuivre notre conversation. Nicolas, avant qu'on donne la parole à Jean-Luc Romero, est-ce que vous voulez bien partager avec lui ce que vous venez de me dire hors antenne? Parce que
oui,
ça m'a bouleversé.
Flavie, que j'étais très touchée par ce que venait de dire Jean-Luc. J'étais pris par une grande émotion et j'ai failli m'effondrer en larmes.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, Jean-Luc Romero?
Des gentillesses immenses, et avec ce qu'il a comme problème de santé, ce qu'il dit sur notre amour, notre lumière, ce que ça lui apporte quand il vient nous voir, ça m'a profondément touchée, je ne m'y attendais pas. Il est d'une immense sensibilité. C'est son engagement, c'est sa conviction qui me touche, son humanisme profond. Je suis très touché, très admiratif par Jean-Luc Romero et le combat qu'il mène sur différents terrains.
Jean-Luc Romero?
Bah écoutez, c'est moi aussi qui vais pleurer. Là.
Bah, ça y est, j'y suis
non,
aussi
non,
là.
Mais les larmes qu'a sûrement dû avoir Nicolas, c'est d'abord des larmes de joie parce
oui.
que, je vous dis, ils sont d'une telle joie. Je vous dis, quand vous disiez tout à l'heure, tout est lumineux, tout l'entretien que vous avez fait, mais eux sont lumineux, leur maison est lumineuse, leurs amis sont lumineux. Et quand vous arrivez chez eux, il y a énormément d'amour, énormément de vie. Ça peut paraître paradoxal quand on vit une maladie avec, en plus, tous ces soins qu'ils doivent faire, qui sont fastidieux, qui sont longs, qui sont épuisants. Et puis en même temps, ben voilà, il y a cet amour extraordinaire et cette relation fantastique.
Nicolas nous disait un petit peu plus tôt dans l'émission, presque qu'il en remerciait sa maladie. Donc on ne va pas revenir sur ce terme-là, mais c'est important, en disant qu'il avait tout à coup une sensibilité au monde, il avait une acuité pour percevoir les choses importantes. C'est ce que vous soulignez, vous aussi, hein, Jean-Luc Romero, dans ce que vous êtes en train de nous dire de Nicolas et de Damien. Maintenant, pour se retrouver ensemble sur un combat qui est celui de l'ADMD, il faut aussi avoir une sensibilité à la vie particulière. Il faut y tenir pour vouloir la garder jusqu'au bout, belle, digne, en tout cas telle qu'on l'entend.
L'association pour le droit de mourir dans la dignité, dont Damien et Nicolas sont membres, et Damien est d'ailleurs le co-président, il ne l'a sûrement pas dit par modestie, de la commission des jeunes de la DMD avec Christophe Michel. Notre association, elle se bat pour que, quand vous êtes en fin de vie, que vos souffrances sont insupportables, que vous voulez donc éteindre la lumière, comme le disait tout à l'heure Damien, vous puissiez décider vous-même. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas la personne qui est en fin de vie qui décide. Globalement, c'est les gens qui sont autour du lit, les médecins essentiellement. Et le combat qu'on mène dans notre association, c'est de faire que celui qui est en fin de vie puisse décider. Décider de vivre le plus longtemps possible, parce que c'est sa conception des choses, ou arrêter ses souffrances, éteindre la lumière quand il n'en peut plus. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible avec la loi française.
Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi française, à ce sujet?
C'est surtout une loi qui est faite par des médecins pour des médecins. Mmh. C'est la loi Leonetti, la loi de 2005, permet, si vraiment vous êtes à bout de souffrance, de dire, écoutez, endormez-moi, et puis on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, et vous pouvez mettre, surtout si vous avez un cœur jeune, des semaines à mourir. Et on nous dit que tout ça ne fait pas souffrir, que c'est très digne. Eh bien, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie d'avoir ça, qui n'ont pas envie de passer des jours, voire des semaines, dans cette situation, et qui n'ont pas envie que les gens qui les aiment les voient dans cette situation. Et c'est pour ça que nous nous demandons à la DMD une loi qui permette de partir entouré des siens en quelques minutes et ne pas avoir ce temps qui est parfois insupportable, ce temps de la mort, ce temps du deuil, qui est insupportable pour ceux qui vous regardent et peut-être pour vous-même, parce qu'on nous dit que quand on arrête d'alimenter quelqu'un et de l'hydrater, en gros, il meurt quand même de faim et de soif, il ne ressent rien. Sauf que malheureusement, personne n'est revenu de cette situation pour nous dire la réalité de cette souffrance ou de cette non-souffrance.
Il y a un sondage IFOP que l'on trouve sur le site de l'ADMD qui date d'octobre 2014, octobre dernier. 96% des personnes sondées sont pour une évolution de la loi et pour que les personnes atteintes de maladies insupportables et incurables puissent demander leur mort. Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas, Jean-Luc Romero ?
La frilosité des politiques, l'influence extrêmement forte des mandarins parlementaires, c'est-à-dire ces députés comme M. Leonetti, qui sont en même temps des grands médecins, et qui ne comprennent pas que c'est le patient qui doit décider. Et puis, malheureusement, certains mouvements intégristes religieux qui ont une grande influence. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression parfois de se battre contre des murs, alors que cette loi, elle est une évidence. C'est Damien qui le dit extrêmement souvent quand il parle de cette cause-là. Il dit, cette loi, c'est d'abord une loi qui rassure. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la situation d'être très malade, que vous savez que vous allez peut-être mourir dans des souffrances extrêmement difficiles, savoir que quelqu'un vous entendra et vous aidera le moment où vous le voulez, eh bien ça vous rassure. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin d'avoir cette aide. Mais une loi comme celle-là, qui permet de dire quand on n'en peut plus, quand on est à bout, stop, et de partir dignement, sans souffrance, entouré des siens, c'est un combat qu'on doit encore aujourd'hui mener, mais qui est quand même un combat qui est essentiel et que veulent les Français.
Jean-Luc Romero, je vous remercie d'être intervenu dans En effet pour s'entendre cet après-midi. Je pense que Nicolas se joint à moi pour vous embrasser.
Oui.
Et puis à titre personnel, j'apporte tout mon soutien à la DMD. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup,
merci
Jean-Luc
beaucoup,
Romero.
Et puis je vous embrasse, puis embrassez fort pour moi Nicolas qui est à côté de vous, et puis bien sûr Damien de loin.
Voilà, je t'embrasse,
Jean-Luc.
Et Damien qu'on va retrouver dans un instant sur cette antenne. Au revoir Jean-Luc.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Damien est de retour avec nous. Damien, tout va bien ?
Oui, tout va bien. J'étais occupée avec mon pneumologue spécialisé dans la mucoviscidose.
Il n'y a absolument aucun problème, Damien. Nous étions avec Jean-Luc Romero qui nous parlait il y a un instant sur l'antenne d'RTL du combat de la DMD. Alors, dans votre ouvrage, Damien et Nicolas Delmer, que je conseille chez XO Document Frères jusqu'au dernier souffle, il y a un rappel d'une proposition de François Hollande. C'était son engagement numéro 21. Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, en état de souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisé, puisse demander dans des conditions précises et strictes une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Vous avez parlé, vous, Damien, avec François Hollande. Vous l'avez interpellé.
Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré en novembre 2013. C'était important pour moi de lui évoquer la maladie dont nous souffrons, Nicolas et moi, de lui parler de la greffe, mais aussi des conditions de la fin de vie, de l'importance de l'accès universel aux soins palliatifs et de la nécessité pour les personnes qui font l'objet de souffrances inapaisables de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir qui aujourd'hui n'est pas possible dans notre pays.
Qu'est-ce qui vous indigne, Damien et Nicolas, aujourd'hui avec la loi Leonetti ? Quel message voulez-vous marteler ? Parce qu'il y a votre histoire et puis il y a aussi, d'ailleurs c'est sur la couverture du livre, un autre combat pour la vie et le droit de mourir dignement. Nicolas ?
C'est un combat pour la vie, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Parce que dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, comme par exemple la Hollande, ils se sont aperçus qu'un certain nombre de patients qui ont fait la demande de partir par suicide assisté ne vont pas jusqu'au bout de cette demande parce qu'ils sont rassurés, apaisés de savoir qu'une délivrance douce est possible, qu'ils peuvent partir en maîtrisant leur mort, en abrogeant leur souffrance, en maîtrisant leur propre fin de vie. Dans ces pays-là, la volonté du patient est mise au centre du dispositif. Et ils ne vont pas jusqu'au bout de cette demande parce que ça les rassure, ça leur donne plus de force pour lutter contre la maladie. Vous savez, le corps et l'esprit sont liés. Et quand la conscience et l'esprit sont rassurés, apaisés, il se crée des mécanismes biologiques, immunitaires, favorables. Et c'est quelque part, ça rallonge la vie du patient. Et c'est pour ça que pour nous, le droit à mourir de la dignité est un combat pour la vie. Et j'insiste là-dessus, il faut que les gens le comprennent, c'est extrêmement important.
Damien, vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, je voudrais dire que même greffé, je souhaite que l'aide active à mourir existe et soit possible en tant que sécurité au cas où une dégradation irréversible surviendrait. Je pense que la greffe, c'est une renaissance.
Oui.
Le poids de la lourdeur est beaucoup moins important. On revit, on marche, on court, on peut refaire des projets qui nous tenaient à cœur. Il faut savoir que cette greffe, elle n'est pas éternelle. Et moi, ça me rassurait de savoir qu'au cas où des complications irréversibles surviendraient, je puisse éteindre la lumière moi-même le moment choisi. Moi, je réclame haut et fort pour moi-même et les personnes de mon pays privé de cette liberté, le droit à ce confort psychologique dont bénéficient d'ailleurs les citoyens de ces pays européens et on franchit pas la légalisation. Donc comme disait Nicolas, ça me donnerait plus de force, ça me donnerait plus d'énergie pour combattre la maladie et ça faciliterait en fait l'allègement du poids de la douleur, pouvoir continuer la vie qui est là. C'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre que quand on donne le choix aux gens de pouvoir maîtriser leur fin de vie, c'est un poids de stress en moins, et ce poids de stress en moins, ça peut les conforter dans leur envie de lutter jusqu'au dernier souffle, en définitive, améliorer leur qualité de vie, leur espérance de vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit et le corps sont intimement connectés et ça crée des réactions physiologiques où la pathologie peut moins s'exprimer, devenir un peu plus supportable. Et moi, je réclame ce droit à cette amélioration, à ce confort psychologique, parce que c'est un plus dans le bien-être. Et moi, je vis pour être bien. Je vis pour ne pas souffrir. Et anticiper, ça fait partie de la vie, pour s'éviter les pires souffrances et s'accorder le meilleur.
On se retrouve, Nicolas, Damien, si vous le voulez bien, dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nicolas, vous vouliez faire passer une dernière idée importante sur l'antenne d'RTL.
Oui, je voudrais rebondir et compléter un peu ce qu'a dit Damien précédemment. C'est que nous souhaitons prévoir, anticiper, afin d'assurer au mieux notre qualité de vie. Personnellement, je ne sais pas quand, comment je vais mourir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai. Mais je souhaite avoir à disposition, à ce moment venu, une palette de choix qui puisse répondre au mieux à mon état d'esprit. Peut-être que j'aurais envie de partir sous sédation terminale. Pour l'instant, ça ne m'attire pas. Mais peut-être que j'aurais envie de partir les yeux ouverts par suicide assisté. Ou peut-être aucune de ces deux solutions. J'aurais juste recours peut-être aux soins palliatifs. Donc je souhaite avoir cette palette de choix pour assurer au mieux mon avenir et ma qualité de vie.
Le message est passé, Nicolas. Damien, avant que l'on se dise au revoir, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là l'un pour l'autre.
Oui, on est toujours là jusqu'à la fin, l'un pour l'autre. C'est une force de vie que nous a transmis notre parcours. Ça a renforcé notre amour. Moi, je suis vraiment fière de mon parcours, de jusqu'où j'ai pu aller. Et pour Nicolas également, et je souhaite vraiment qu'il soit important de dire aux gens qu'il faut se battre jusqu'au bout, mais que chaque être humain, il a des limites. On peut tous être confrontés un jour à une situation dramatique où le corps devient une prison infernale à endurer. Et il faut réfléchir à toutes ces questions liées aux pertes d'autonomie, aux déchéances, aux dégradations, aux restrictions de liberté, s'interroger jusqu'à ce quel stade soi-même on se sentirait capable d'aller et réfléchir aux différentes options que nous offre la médecine, les pratiques en fin de vie, pour que chacun puisse choisir ce qui lui convient au mieux.
Damien, je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé autant de temps et je vous embrasse, voilà, bien fort. Et vous m'avez beaucoup touchée, voilà, donc merci pour tout. Nicolas, ça vous fait sourire que je dise à votre frère qu'il m'a touchée et
oui,
que je l'embrasse?
Oui, c'est touchant.
Mais vous aussi, vous m'avez touchée, vous aussi, je vous embrasse. Non, on a passé un bon moment grâce à vous, voilà.
Je vous remercie.
Damien, prenez soin de vous, on vous souhaite évidemment le meilleur.
Merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer et j'encourage tout le monde à vivre et lutter jusqu'au bout et à se poser de bonnes questions pour soi-même parce que je souhaite que tout le monde soit bien, tout le monde se sente bien, tout le monde soit heureux. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi.
Merci en tout cas Damien, je vous embrasse, tout le monde vous embrasse ici et puis à bientôt j'espère. Nicolas Delmer, merci aussi d'avoir été le porte-parole physique aussi de Damien. Je rappelle votre ouvrage « Frères jusqu'au dernier souffle », un ouvrage indispensable à la réflexion et puis au cœur aussi chez IXO Documents. Je rappelle également votre association terredesoleil.org pour nos auditeurs qui auraient envie de venir un petit peu plus encore à votre rencontre. Je vous rappelle l'ADMD qui est l'association du droit à mourir dans la dignité. Vous trouverez forcément le site sur internet. Et je vous rappelle un film hollandais, Simon. Simon qui est un film qui traite justement de ce sujet d'Edith Terstal. Nous, on se retrouve demain à 15h sur RTL pour une émission d'une toute autre couleur avec le chef Michel Bras. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.